Bonjour Monseigneur Bouvet.
Bonjour Anne-Rose.
Nous nous retrouvons comme tous les 15 jours dorénavant. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler des jeunes. C'est la saison des confirmations. Vous êtes allé confirmer les jeunes de Lourdes, de Bagnères. Vous allez dans quelques jours confirmer les jeunes de Séméac, puis de Pouillastruc. Jusqu'à la fin du mois de juin, vous allez confirmer les jeunes de notre diocèse. C'est l'occasion de parler un petit peu de cette jeunesse en cette année synodale pour eux. Ces jeunes vous écrivent des lettres. Avant de recevoir le sacrement de confirmation, vous avez déjà donc reçu les lettres de tous ces jeunes que vous allez confirmer cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il en ressort ? Comment vous sentez la jeunesse de notre diocèse, Monseigneur Bouvet ?
C'est vrai qu'on leur demande d'écrire une lettre, hein, ils ne le font pas tellement spontanément. On leur demande de demander la confirmation. C'est un sacrement, ça se reçoit en toute liberté. Et la manière de le signifier, c'est justement d'écrire à l'évêque une lettre qu'il n'y a que moi qui lis. Donc souvent, ils se confient et c'est assez beau. Alors, c'est très différent d'un jeune à l'autre, hein, parce que d'abord, les filles à cet âge-là, vers 14-15 ans, sont quand même plus mûres que les garçons. Et du coup, on voit bien que les motivations, la manière de parler d'elles-mêmes, souvent, c'est plus profond, c'est plus recherché, hein, chez les filles. Mais ça n'empêche pas que chez les garçons, il y a aussi de très beaux courriers. Et alors, en fait, ils se présentent d'abord. Ils vont demander la confirmation, mais souvent, ils se présentent. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, en se présentant, ils disent quand même leur état d'âme. D'abord, par exemple, ils présentent leur famille avec toutes les situations qu'il peut y avoir, des familles très unies, des familles séparées. Cette année, c'est la première fois, par exemple, que des jeunes me disent... quand je leur demande où est-ce que vous habitez, qu'ils me disent deux villes différentes. Bon, parce que les parents sont séparés, donc ils ont une garde alternée, et ils se sentent originaires de deux endroits. Bon. Voilà. Et puis, il y a aussi des familles extrêmement unies. Souvent, on sent une très grande amitié familiale. Je parle d'amitié, hein, parce que il y a le rapport éducatif avec les parents, mais parfois, il y a de l'amitié en plus, c'est-à-dire qu'on sent une famille très, très soudée. Et puis, ils disent souvent aussi la famille qu'ils ont envie de construire plus tard.
Ah oui, ils se projettent.
Parfois, ils se projettent, oui, en disant, bah, moi, j'aimerais bien. Il y en a même qui disent, oui. Il y en a une qui disait, j'aimerais avoir deux enfants. Enfin, on ne sait jamais. voilà. Et puis, alors, ils parlent de leur métier. Ça, c'est très intéressant parce qu'ils disent ce qu'ils veulent faire plus tard. Bon, les animateurs leur disent, si vous voulez vous présenter à l'évêque, dites ce que vous voulez faire plus tard. Mais ils le marquent. Et moi, je remarque une chose qui me touche. C'est d'abord que ceux qui parlent de leur métier, alors il y a ceux, évidemment, qui disent, moi, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Donc, c'est normal, à 13-14
ans. Ils sont jeunes.
Ils sont jeunes. Mais ceux qui en parlent, souvent, ce sont des métiers de service, ce sont des métiers de relations, ce sont des métiers de don de soi. Ils ne disent pas « je vais faire ce métier pour gagner beaucoup d'argent ». Moi, je ne trouve jamais ça. Ou pour avoir une grosse voiture ou une grosse maison. Non, en général, c'est des métiers. Par exemple, ça peut être infirmier, ça peut être aide à la personne, ça peut être, je ne sais pas, avocat, ça peut être pour mettre plus de justice dans le monde. Enfin, il y a un idéal à cet âge-là qui est très, très beau.
Vous sentez de l'espérance chez ces jeunes ?
Oui, je sens beaucoup d'espérance. Je sens beaucoup d'espérance. Et puis alors, je trouve que c'est beau de voir naître un désir. Parce que Dieu nous parle à travers nos grands désirs. Et là, à 13-14 ans, il y a des grands désirs qui commencent à monter dans le cœur de ces jeunes. Ils se projettent, ils voient un avenir, ils se disent « voilà ce que j'ai envie de faire de ma vie ». Alors, ça ne les empêche pas... évidemment, d'être face à des épreuves, mais c'est d'abord ça. Hein. Puis alors, il y a cet élan vers Dieu lorsqu'il demande la confirmation.
Oui.
Alors, il exprime de manière très, très différente chacun, mais il y a cet élan vers Dieu. Parfois aussi, cet élan, il est un retour à Dieu. C'est-à-dire, il disait, j'ai abandonné après le caté, et puis j'ai repris, un peu comme s'ils avaient, je ne sais pas, 50 ans, vous voyez. En fait, ils en ont 13, 14. Il y a déjà eu une période d'abandon de Dieu, une période où il n'allait plus à la messe, où il ne priait plus, et puis voilà, qu'un ami leur a proposé de venir au groupe de confirmation. Et donc, c'est un retour à Dieu avec ce qu'il peut y avoir de prière, de désir, de s'enraciner dans la vie chrétienne. Bon, et alors, voilà, et c'est là que ce qui est beau, c'est que Justement, l'Esprit Saint vient là, hein, dans la confirmation, les dons de l'Esprit, pour les aider à fortifier leur vie d'adulte. Hein, l'Esprit de force, l'Esprit de conseil, pour que tout cela prenne de la cohérence, soit fondé en Jésus-Christ, dans l'Esprit du Père et du Fils. Et donc là, il y a vraiment un très beau moment, hein, pour se préparer à la confirmation, alors que montent ces grands désirs, alors qu'ils veulent faire quelque chose de leur existence. On leur dit, discerne dans l'Esprit Saint, prends la lumière de l'Esprit Saint et puis demande-lui sa force pour arriver là où tu veux arriver.
Est-ce qu'ils ont des rêves pour l'Église aussi? Est-ce qu'ils vous font part de l'Église dont ils rêvent, l'Église qu'ils voudraient pour demain?
Alors, c'est la raison pour laquelle moi j'ai lancé le synode des jeunes, c'est pour que pour l'instant, l'Église y reçoive quelque chose.
Oui.
Donc, ils ont un sentiment d'appartenance à travers leur groupe d'aumônerie. Mais, parce que parfois, quand même, ils se présentent comme voulant annoncer l'Évangile, voulant être témoin du Christ, voulant être responsable des petits frères et des petites sœurs dans le service de la foi. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Mais on trouve... moi, je trouve qu'ils sont plus recevants de l'Église que participants de sa vie comme responsables de l'Église. Et voilà pourquoi le synode, j'aimerais bien que le synode les aide à leur faire prendre conscience que quand on est dans l'Église, on en est aussi responsable à sa manière. Alors c'est sûr qu'à 13-14 ans, ils n'ont pas l'habitude de se sentir responsables parce qu'ils reçoivent de l'école, ils reçoivent de la famille, ils reçoivent de toutes les associations auxquelles ils participent. C'est-à-dire on l'organise pour eux et puis ils viennent participer, quoi. Moi, je voudrais qu'ils fassent plus que participer en recevant, mais je voudrais qu'ils soient acteurs de la vie de l'Église. C'est ça l'enjeu du synode.
Ça exige aussi, du coup, du côté des communautés paroissiales, de laisser les jeunes réveiller leurs talents, précisément.
Oui, alors bon, ça, c'est sûr que c'est un objectif secondaire du synode, c'est de relier un peu les jeunes à leur communauté paroissiale. Ce que je voudrais signaler aussi, c'est que dans la présentation qu'ils font, les jeunes parlent de leurs épreuves aussi, parce que ces jeunes sont éprouvés. Il y a des deuils, il y a des séparations, il y a des déménagements. On ne se rend pas compte combien pour un adolescent un déménagement est une rupture majeure.
Ouais.
Parce qu'il y a des amis qu'on lâche, il y a tout un environnement qu'on abandonne. Mm-hmm. Hein, et ça peut être très très dur à l'adolescence. Et puis, il y a aussi parfois les ruptures sentimentales, simplement les ruptures amicales, quoi, quand on a été trahi par un ami. Et les jeunes en parlent aussi. Il y a parfois des épreuves plus lourdes, hein, qu'ils doivent traverser. Je dois dire que quand il y a une grosse épreuve qui est révélée dans une lettre, je demande quand même à l'animateur s'il est au courant. Et souvent, les animateurs sont au courant. Ils disent « Oui, je sais qu'il y a eu cette épreuve ». Et donc, je trouve là, c'est une manière de remercier les animateurs de jeunes pour ce qu'ils font et pour la proximité qu'ils ont vis-à-vis des jeunes, parce que en fait, ils les suivent bien, ils les accompagnent bien.
Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes quand ils vous font part de leur inquiétude, de leur peur ou de leur déception de la vie? Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre en tant que pasteur?
Oui, alors là, je ne réponds pas aux lettres personnellement. Ils m'écrivent, mais je leur réponds pas personnellement parce que je peux pas. Et puis, ça n'est pas l'objet, si vous voulez, de cette lettre. C'est pas une lettre privée pour que je leur réponde.
Mais le micro de Radio Présence est aussi là pour ça.
Si vous voulez, je crois que c'est pour ça que parfois je téléphone aux animateurs quand l'épreuve est lourde. Mais c'est à travers l'aumônerie, hein, en fait, à travers la famille, à travers l'aumônerie, à travers leur lieu habituel, hein, qu'ils trouvent aussi des réponses, qu'ils trouvent des personnes à qui parler. Moi, je crois que s'ils en parlent à l'évêque, c'est parce que c'est un bon moyen aussi de mettre des mots sur leur épreuve. Parfois, moi, je vais les voir. Je vais les voir aussi avant la confirmation. Je les appelle. Je dis, j'ai lu ta lettre et j'ai vu que tu avais traversé telle épreuve et je voudrais juste qu'on en parle ensemble. On peut prier ensemble. Bon. Donc, y a mille moyens. Hein, et puis, vous voyez, les épreuves, chacun les affronte comme il peut. Je dis ça parce que, vous voyez, à 13 ans, 14 ans, on peut être aussi... on peut avoir déjà connu la souffrance, la croix, du coup, les doutes aussi, mais aussi l'amour du Père des cieux. Hein, c'est-à-dire, beaucoup disent aussi, moi, j'étais soutenu par ma foi, j'étais soutenu par le Seigneur... où la foi de ma grand-mère m'a beaucoup aidé, et du coup, j'ai retrouvé la mienne à travers elle. Voilà. Et donc, c'est une vie d'adulte qui commence. Hein,
qui est en train de naître.
Qui est en train de naître avec ce qui peut y avoir de très grand et puis ce qui peut y avoir de douloureux aussi. Alors, justement, moi, ce que je veux dire aux jeunes, c'est ne jamais perdre l'espérance. Hein. Et je trouve que, justement, ils sont pleins d'espérance. Moi, je veux leur redire ma confiance aussi. C'est pour ça qu'on a lancé un synode. C'est parce que moi, j'ai vraiment confiance dans ces jeunes qui sont pleins d'enthousiasme, qui sont capables d'avoir des projets pour l'avenir, qui sont capables de devenir responsables des autres, qui ont un goût pour la joie, pour la louange, pour la musique. Voilà, qui ont un amour de la création, un grand respect de la création, ça c'est très intéressant, qui ont souvent un esprit sportif, qui sont capables de fraternité, d'intégrer d'autres dans un groupe, et on a besoin d'eux.
Voilà. Ça fait du bien d'entendre ça, parce que souvent, on nous décrit une jeunesse qui est un peu désespérée, qui ne sait pas où elle va, qui n'a pas d'ambition, pas d'envie, et en fait, vous nous décrivez une jeunesse qui, au contraire, a plein de talents, plein de rêves, et qui est capable de mettre ses talents au service des autres. C'est très encourageant, c'est très positif, ça fait du bien d'entendre un message.
Oui, parce que, vous savez, bon, je crois que les jeunes, ils apprennent à construire, et puis là, on les prend, j'allais dire, c'est vraiment une démarche qu'ils font, eux, et donc, moi, la jeunesse que je rencontre à travers les lettres, et que je peux ensuite rencontrer en face à face, c'est plutôt cette jeunesse qui est pleine d'avenir, qui est porteuse d'avenir, et ils prennent le monde... à bras le corps, et ils vont le faire, et puis ils nous porteront quand on sera plus vieux. Hein. Voilà, donc nous, on leur dit notre confiance, et puis réveille tes talents, c'est justement l'idée de ce synode, c'est de dire ils sont pleins de talents, tous ces jeunes, et on a envie de les encourager à les développer, à les mettre au service du monde, de leur famille, d'eux-mêmes, de la société, de l'Église. Hein, on dit voilà, tout ce que vous avez en vous, voilà, découvrez-le dans la lumière de l'Esprit Saint. Et puis, déployez-les pour le bien de tous.
Le deuxième sujet dont nous allons parler aujourd'hui, Mgr Bouvet, c'est le sujet de l'écologie. C'est un sujet dont on parle dorénavant assez régulièrement. C'est un sujet qui vous est cher, sur lequel vous travaillez beaucoup. En ce moment, vous étudiez de près les questions d'habitat. Parce que quand on parle d'écologie, c'est très vaste. Et il y a aussi la question de l'habitat. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces travaux que vous menez ?
Oui, c'est-à-dire que la question de l'écologie, je crois que j'avais dit la dernière fois, on peut en parler, on peut faire des conférences, voilà. Nous, on a choisi aussi dans le diocèse, avec mon conseil, d'aborder la question de l'écologie à travers des travaux pratiques, si je puis dire, parce que c'est toujours c'est intéressant de faire une réflexion un peu philosophique, un peu théologique. Et puis d'en parler ensemble, mais c'est intéressant aussi de voir ce qui se fait. Et nous, on a eu envie d'aller voir à travers le prisme de la construction de l'habitat, parce que d'abord, le diocèse a des bâtiments, a des édifices, on a des terrains aussi, et puis parfois on les rénove, ces édifices, on fait des travaux, et puis parfois on fait des constructions aussi, hein, ça nous arrive. Et donc, on s'est dit, tiens, allons voir ce qui se fait dans le diocèse ou aux alentours, pour voir comment est-ce qu'on peut restaurer, entretenir, construire dans un plus grand respect pour la création. Et donc là, on a fait la visite de trois bâtiments. D'abord, une maison à Lourdes qui a été construite en éco-construction. Donc, en fait, la personne produit son électricité. C'est le soleil qui chauffe la maison en hiver comme en été.
Donc en autonomie totale.
En autonomie, c'est-à-dire que les eaux usées d'abord sont purifiées, l'eau de pluie est récupérée, etc. Voilà, avec un certain nombre de principes. Et puis on a été voir aussi à Bartrès, il y a une maison de la communauté du Cenacolo qu'ils sont en train de réhabiliter. Donc, c'est des maisons qui ont été construites, mais qui n'étaient pas du tout isolées. Hein, et donc, ils ont voulu isoler et réhabiliter leur maison avec ce genre de principe, hein, en se disant, mais comment est-ce que...
Comment on peut construire en respectant l'environnement, quoi.
Voilà, comment est-ce qu'on protège notre maison, la maison qui est là, on va la protéger. Et puis, On a été aussi dans une maison, un éco-centre à Riscle, dans le Gers.
Qu'est-ce que c'est, un éco-centre ?
Un éco-centre, en fait, c'est une maison qui a été bâtie selon ses principes. Hein, et voyez, le principe de base, donc c'est, voilà, c'est une maison qui a été construite comme ça et puis qu'on peut visiter pour aller voir quels matériaux utiliser, comment...
C'est une maison modèle, en quelque sorte.
C'est une maison modèle où il y a un certain nombre de gens qui travaillent et puis qui présentent, qui font de la recherche et puis qui accompagnent des gens qui bâtissent des maisons ou qui rénovent leurs maisons. Donc, c'est une sorte d'accompagnement qu'ils proposent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la maison n'est pas conçue seulement comme une coque pour se protéger de la pluie ou du froid ou du soleil, mais qu'elle est ouverte à ce que la création apporte, hein, pour réguler la température, pour la lumière. Par exemple, vous avez des grandes baies vitrées au sud, donc qui vont capter la lumière et puis qui vont capter la chaleur. Évidemment, vous voyez, en été, il peut faire trop chaud. Hein, donc, ils ont inventé un système à la fois de volets, de bords de toit, de casquettes végétales avec une vigne dessus, à mi-hauteur pour se protéger de la chaleur en été. Bon. Et puis, il n'y a pas de climatisation. Il y a une amplitude thermique de 10 degrés, hein, entre 17 à 27 degrés entre la température la plus froide et la température la plus chaude. Et puis, et ça, c'est intéressant parce que du coup, les murs sont en structure de bois et de paille. Ils captent la chaleur, ils la conservent, ils la redistribuent. Donc, c'est toute une sorte d'écosystème qui est en interaction avec la création, avec la nature, avec ce qu'apporte la nature.
Et c'est ça qui vous intéresse précisément.
C'est ça, oui, c'est très intéressant parce qu'au fond, quand on construit une maison comme ça, quand on fait de la recherche sur les matériaux, qui sont des matériaux qu'on trouve à côté, la paille, de la terre, bon, c'est assez simple. Hein. On est très vite en circuit court aussi, parce qu'on peut trouver... en circuit court, non seulement avec les matériaux, mais avec les personnes, avec les entrepreneurs qui vont travailler avec nous. Donc, c'est une manière de concevoir l'habitat. Je ne dirais pas qu'elle est nouvelle, parce qu'au fond, elle s'appuie sur des principes qu'on connaît depuis longtemps, mais qui est comme renouvelée.
Oui, parce que ce sont des pratiques qui existaient, mais qu'on a un peu perdues et qu'on essaie de retrouver aujourd'hui.
Et je dois dire que cet éco-centre à Riscle, il est assez intéressant parce que la maison est agréable, parce que les couleurs sont belles, parce qu'au fond, on n'est pas dans une cabane au fond des bois, quoi. Vous voyez, on a vraiment l'impression d'habiter dans une maison qui est agréable à vivre. Il y a des toilettes sèches aussi. On s'est intéressé à la question des toilettes sèches aussi, parce que nos toilettes consomment beaucoup d'eau et souvent de l'eau potable. Voilà. Et donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est de réfléchir sur l'écologie en voyant des mises en pratique, hein, des personnes qui ont travaillé, qui ont réfléchi, et puis qui ont mis des choses en œuvre. Et donc ça nous intéresse aussi pour
les projets à venir dans le diocèse.
Pour notre parc immobilier. Hein.
Ouais.
Et puis pour qu'on se mette dans l'écologie aussi de manière très, très pratique. Et qu'on voit qu'au fond, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire qui sont possibles. Et si nous construisons un jour des locaux dans cet esprit-là, ils pourront aussi servir... de manière pédagogique, hein, à tous ceux qui sont autour, à tous ceux qui les habitent, qui y viennent, pour voir ce qui est possible de faire aujourd'hui.
Ça, c'est aussi une responsabilité de l'évêque de veiller à ce que des projets à l'avenir soient éco-responsables.
Ben, c'est-à-dire que c'est très en cohérence avec notre théologie de la création.
Ouais.
Le Seigneur a remis la création entre nos mains et nous avons envie... De respecter cette création. Nous ne sommes pas les propriétaires, nous en sommes les intendants. Et puis, de la transmettre aux générations futures avec tout le potentiel qu'elle a, hein, et avec la joie d'avoir transmis une énorme richesse.
Merci beaucoup, Mgr Brouvet.
Merci.
On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel entretien. Et nous pensons et nous prions à tous ces jeunes que vous allez confirmer dans les jours à venir. On peut s'associer à leur prière et invoquer l'Esprit Saint en leur faveur.
Merci pour eux et pour leurs parents aussi.